les podcasts de Radio Vatican.
L'ONU alarme sur la situation en Crimée. Dans un rapport publié lundi 25 septembre, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a accusé la Russie d'arrestations arbitraires, de disparitions forcées, de cas de torture et au moins une exécution extrajudiciaire. Des violations des droits humains de plus en plus fréquents dans cette péninsule ukrainienne depuis son annexion illégale par la Russie en 2014. Dans ce petit territoire européen de 2 millions d'habitants, la détérioration du respect des droits implique aussi celle des libertés, notamment de la liberté de culte, une liberté de religion mise à mal depuis que s'applique une législation russe très strictes, notamment envers la communauté musulmane des Tatars, l'église ukrainienne orthodoxe du patriarcat de Kiev et les gréco-catholiques de Crimée. Seule l'activité de l'église ukrainienne orthodoxe du patriarcat de Moscou est facilitée par les autorités russes en Crimée. Monseigneur Boris Goudziak est évêque des gréco-catholiques d'Ukraine pour la France, le Benelux et la Suisse. Il évoque la dégradation de cette situation et de la liberté de culte en Crimée.
Depuis l'annexion de la Crimée, la situation pour beaucoup de citoyens de Crimée est très dur. Toutes les personnes qui ne veulent pas avoir les autorités russes, qui veulent rester citoyens d'Ukraine, ils sont d'une manière ou autre persécutés. Toutes les écoles ukrainiennes étaient fermées. 50 000, 60 000 personnes de la Crimée, ils ont quitté leur maison, leur habitation, leur travail et ils vivent maintenant en Ukraine. L'autre situation, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes économiques parce que Crimée est un territoire agricole, mais toute l'eau pour l'agriculture en Crimée vient d'Ukraine et Ukraine coupe. D'autre côté, la Crimée est dans le premier lieu est un territoire pour le tourisme. Et c'était comme Côte d'Azur pour la France. Certainement, les Ukrainiens, ils vont plus en Crimée pour les vacances. Les Tatars musulmans, ils sont la communauté plus persécutée. Leur majlis, leur organisme de la communauté tatar était interdit. Le leader Mustafa Djemiliev, qui a passé beaucoup d'années dans le goulag soviétique, luttant pour les droits tatars, ils ne peuvent pas entrer en Crimée.
Justement, dans la vie quotidienne en Crimée, comment se traduit cette situation pour les églises chrétiennes notamment?
Toutes les chrétiennes qui ne sont pas membres du patriarcat de Moscou sont d'une condition précarieuse. Le patriarcat de Kiev, les protestants, les gréco-catholiques et dans quelques mesures aussi les catholiques du rite latin. Par exemple, beaucoup de membres de l'église ukrainienne gréco-catholique ou du patriarcat de Kiev orthodoxe, ils parlent ukrainien. Les enfants maintenant à l'école qui parlent ukrainien peuvent être en difficulté. Pour les communautés, les paroisses, les autorités russes ont obligé toutes les communautés religieuses de se réenregistrer nouvellement. Et ce processus est très compliqué. L'église ukrainienne gréco-catholique devait abandonner son propre nom. Et les paroisses, la juridiction en Crimée n'est pas la juridiction de l'évêque en Ukraine, mais les paroisses sont mises directement sur l'autorité de la siège apostolique. Donc, ces paroisses sont occupées canoniquement de l'église ukrainienne catholique.
La législation russe, elle est aussi particulièrement sévère avec les prêtres gréco-catholiques qui sont mariés. Quelles sont les difficultés pour eux?
Les prêtres mariés avec leur famille étaient vraiment en grand danger. Ils devaient quitter Crimée. Maintenant, il y a seulement un des prêtres qui était avant l'annexion. Les autres paroisses doivent être servies par des moines qui viennent d'Ukraine, mais qui ont les périodes limitées pour la présence. Et après quelques mois, ils doivent rentrer en Ukraine et attendre pour revenir en Crimée. Donc la stabilité est très difficile maintenant. Il y a seulement deux prêtres pour les 5 paroisses qui peuvent être à distance de 200 kilomètres.
Et pour l'église ukrainienne orthodoxe rattachée à Kiev, comment ces contraintes de la Russie s'appliquent en Crimée ?
Les orthodoxes du patriarcat de Kiev sont en plus grande difficulté parce que le patriarcat de Kiev a décidé de ne pas s'enregistrer nouvellement. Et beaucoup de paroisses du patriarcat de Kiev étaient fermées. Et chaque quelques mois, nous écoutions de nouveaux coups contre le prêtre, les communautés de cette juridiction.
Alors, toutes ces difficultés que vous avez évoquées, quelles sont leurs conséquences sur les relations entre les églises chrétiennes ? On a beaucoup parlé de division depuis 2014.
Il est clair que les autorités russes font tout ce qu'ils peuvent pour mettre d'une position davantage l'église du patriarcat de Moscou contre le patriarcat de Kiev, la juridiction orthodoxe ukrainienne, et aussi, par exemple, les gréco-catholiques. Dans cette mesure, beaucoup des Ukrainiens, ils voient le patriarcat de Moscou comme une force collaboratrice qui aide l'occupation, qui ne parle pas de la persécution, de la violence contre les personnes innocentes, qui veulent seulement être qui ils sont. Et certainement aussi les Tatars qui ont subi les coups plus durs. Leur communauté qui est traumatisée voit le patriarcat de Moscou comme collaborateur avec l'armée, les forces, l'agression, la violence russe.
Pour l'église gréco-catholique en Crimée, comment est-ce qu'elle agit et réagit aujourd'hui pour continuer sa mission d'aide à la population de Crimée ?
Donc l'église gréco-catholique est très petite. Elle n'a pas la prétention de déterminer la situation en Crimée. Mais chaque communauté, grand et petit, a le droit d'exister. L'évêque qui était responsable directement, Mikhailo Bubny, l'ironie est qu'il était nommé en tant qu'évêque le jour de l'annexion de Crimée. Le 13 avril 2014. Et il était, le premier jour de son ministère, bloqué dans l'action normale pastorale. Notre église était toujours relativement petite. Dans le temps soviétique, l'église gréco-catholique ukrainienne, entre 1946 et 1989, était le plus grand église illégale du monde, mais l'église avant la guerre a eu 4 millions fidèles, c'est pas une communauté immense. Mais nous avons vu comme le témoignage des martyrs a changé l'histoire et Monseigneur Bubny, qui est un évêque jeune, je pense qu'il a peut-être 44 ans, il a beaucoup de courage et il parle de nos fidèles en Crimée comme des témoins de foi, qu'ils n'ont pas peur, ils sont forts, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont libres en Christ. Et je pense que cette liberté en Crimée occupée dans tout le territoire ex-soviétique qui était traumatisé par les génocides et le totalitarisme communiste, cette liberté en Christ est un témoignage très important qui sort de toute la proportion petite de la communauté. Difficile de dire quel sera le futur. Les problèmes sont vrais, il y a beaucoup de difficultés et aussi dangers pour les fidèles. Dans cette situation, la solidarité, les prières et la mémoire des autres chrétiens est très important. C'est très important de parler et de connaître la situation en Ukraine. Et pour cette raison, le rapport de l'ONU est une chose que doit être notée et expliquée.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.